Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les fraudeurs mis à l'amende, 12 milliards d'euros récupérés par le fisc l'an dernier. C'est un record, explication dans un instant. Prière de faire des stocks de masques, message passé aux entreprises qui n'ont pas attendu le gouvernement. Merci bien, disent les patrons. Les médecins ont-ils pris le pouvoir sur les politiques? Réflexion sur la crise épidémique avec l'invité du grand entretien.
Il est physicien et philosophe des sciences. Étienne Klein sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Il publie Le goût du vrai chez Gallimard dans la petite collection Tract. Vous pourrez dialoguer avec lui 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, le sud des États-Unis et son passé confédéré, une page est en train de se tourner. Des communistes au LR, retour sur une des bascules des municipales à Valenton dans le Val-de-Marne. Et puis le néopolar à la française, la série noire, republie le premier roman de J.P. Manchette.
France Inter.
C'est difficile, mais ça peut rapporter gros, mettre son nez dans la fraude fiscale, mission des fonctionnaires de Bercy, qui ont donc réussi à mettre la main sur 12 milliards d'euros en 2019. C'est plus qu'espéré et ça tombe à pic dans les caisses de l'État. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on est arrivé à ce record dont se félicite évidemment le ministre Gérald Darmanin?
Bien d'abord, grâce à des contrôles plus efficaces menés par des services fiscaux mieux renseignés, grâce au croisement de fichiers informatiques et aux transmissions d'informations entre différents pays. 84 millions de comptes bancaires concernés l'an dernier par les échanges de données au sein de l'OCDE, c'est deux fois plus qu'en 2018. Résultat, les transferts suspects vers l'étranger échappent beaucoup moins au radar de Bercy, qui a donc sévi plus que d'habitude en 2019. Résultat net, 11 milliards d'euros. Ajoutez les derniers effets de la cellule de dégrisement fiscal pour les titulaires de comptes cachés qui viennent eux-mêmes se dénoncer, services fermés, depuis 350 millions, plus les 530 obtenus grâce à des accords avec de grandes entreprises comme Google qui évite ainsi, en transigeant avec le fisc, de pénibles procès. Vous arrivez en tout à 12 milliards, record absolu depuis 2015, alors que les recettes du contrôle fiscal avaient tendance à baisser depuis 5 ans. Bercy se dit confiant sur le fait que les méthodes du contrôle fiscal désormais plus efficaces permettront de ramener sur le long terme plus de recettes pour l'État, même si pour 2020, en cette année si difficile pour beaucoup d'entreprises, les contrôles devraient épargner les secteurs les plus en difficulté.
Et de fait, merci Fabien Cazot, la récolte devrait être moins bonne cette année. Bercy a interrompu ses contrôles fiscaux à la mi-mars avec le confinement. Ils reprendront progressivement au cours de l'été. Chez Airbus, la facture sociale pourrait être moins lourde, sommée par le gouvernement de revoir ses suppressions de postes à la baisse. Le PDG du groupe estime que 1500 emplois pourraient être sauvés sur les 5000 disparitions annoncées grâce aux aides de l'État. Et des avions au fil à tricoter, Fildar a été placé hier en procédure de sauvegarde à Lille. L'enseigne créée par la famille Muliez dans les années 40 emploie 220 personnes et possède une quarantaine de magasins. Après des années de résultats négatifs, la crise du Covid aurait encore dégradé la situation.
Il est 8h04, Florence, des masques face au risque d'une deuxième vague.
10 semaines de stock, voilà ce que le gouvernement va demander aux entreprises. C'est évident, répondent les intéressés. Pour François Asselin de la CPME, l'injonction est totalement inutile.
On n'a pas vraiment de leçons à recevoir en matière de prévention. Vous savez, les entreprises sauront prendre leurs précautions. Elles sauront d'ailleurs faire ce que le gouvernement lui-même n'a pas su très bien faire au départ de cette épidémie. Donc elles le feront, d'autant plus que de toute façon, si vous n'avez pas les moyens de protéger physiquement vos salariés, vous ne pouvez pas leur imposer de venir au travail. Donc autant vous dire que aujourd'hui, comme hier, les masques restent stratégiques. Les stocks aujourd'hui sont disponibles en quantité, en qualité, et vous savez, il y a même du surstock, hein, parce que tout le monde a commandé en masse des masques, c'était prévisible, et donc aujourd'hui, la ressource est disponible. Quelque part, tant mieux. Pour autant, eh bien, ça reste pour beaucoup d'entreprises un investissement non négligeable, mais ne vous inquiétez pas, les entreprises sauront prendre leurs précautions.
Voilà, François Asselin de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Décidément, chacune de ces prises de parole font polémique. Le patron des hôpitaux parisiens de la PHP accuse Didier Raoult de faux témoignages devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Martin Hirsch conteste notamment les chiffres donnés par le professeur marseillais sur le taux de décès des malades en réanimation. Il s'est pourtant appuyé sur un rapport de la PHP, souligne l'équipe du professeur. Sur le front épidémique, encore 18 nouveaux décès hier. Et toujours 8300 patients à l'hôpital en France. À Laval, en Mayenne, un abattoir a été mis à l'arrêt. Olviaport, où une trentaine de salariés sont positifs au coronavirus sur 60 testés en début de semaine. On attend les résultats de 150 autres qui travaillent dans les ateliers de découpe du site. On n'en est pas encore au reconfinement localisé en France, contrairement à l'Angleterre et à Leicester et son agglomération 600 000 habitants. Retour en arrière pour cause de flambée épidémique. La ville qui se préparait à rouvrir ses pubs et ses cinémas samedi doit refermer ses commerces et ses écoles à partir d'aujourd'hui. Le coup est rude, comme l'a constaté notre envoyé spécial Antoine Gignot.
Elle distribue des colis, des repas dans le centre-ville. Avec plusieurs dizaines de bénévoles de la banque alimentaire E2, Rosie Winter essaye depuis le mois de mars de répondre à plusieurs centaines de nouvelles demandes. La prolongation du confinement à Leicester, pour elle, ressemble à une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus sortir pour travailler. Et les coiffeurs, les gens qui ont des restaurants, ça fait 4 mois qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Beaucoup d'entre eux ont du mal à se procurer de la nourriture et des produits de première nécessité. Je pense qu'il s'agit autant d'un problème économique que d'un problème de santé, parce qu'ils ne peuvent plus rien acheter. Khalil, lui, venait juste de rouvrir les portes de son restaurant pour vendre des sandwichs à emporter. Il espérait remettre des tables et des couverts samedi, comme dans le reste du Royaume-Uni. Il est proche de la faillite. Le problème, c'est de payer les factures, dit-il. Là, je vais être obligé de fermer complètement avec ce nouveau confinement. Je vais faire probablement sur l'année 80% de chiffres de moins que d'habitude. Ça ne se présente pas très bien. Et c'est aussi le constat que fait le maire de Leicester, dans cette ville où le taux de chômage est déjà habituellement 2 points au-dessus de la moyenne. Peter Soulsby demande une aide exceptionnelle et rapide au gouvernement. Leicester, Antoine Gignot, France Inter.
Aux États-Unis, la Californie annonce la fermeture de presque tous ses bars, ses restaurants, ses cinémas et ses musées pour au moins 3 semaines. C'est l'irrésistible ascension du Covid-19 dans le pays. Plus de 50 000 nouvelles infections hier. C'est un record. L'autre actualité qui agite le pays, ce sont les suites politiques de la mort de George Floyd. Ce nouveau regard porté sur les survivances du passé esclavagiste, du passé confédéré dans les États du Sud. Une page est en train de se tourner dans le Mississippi, où le drapeau qui évoquait la guerre de sécession est remisé, et à Richmond, capitale des États confédérés, où Gregory Phillips, la mairie, déboulonne des statues.
Sous une pluie battante et les cris de joie d'un millier de manifestants, la grue des employés municipaux de Richmond, dans l'État de Virginie, arrache de son socle la statue de Thomas Stonewall Jackson. Il était l'un des principaux généraux de l'armée sudiste et confédérée. Richmond est aux États-Unis la ville qui compte le plus de ces monuments et dont la plupart vont être retirés. Depuis la fin du statut de capitale de la Confédération il y a 155 ans, explique le maire Lee Varstone, un Afro-Américain de 39 ans, nous sommes sous le poids de cet héritage. Ces statues, bien sûr, sont symboliques, mais elles ont placé une ombre sur le rêve de nos enfants noirs. En les enlevant, nous pouvons enfin commencer à guérir et à nous concentrer sur l'avenir. Plus au sud, le Parlement du Mississippi vient officiellement de renoncer à son drapeau, le dernier aux États-Unis à encore arborer l'étendard rouge, bleu et blanc des États esclavagistes. Le drapeau flottait depuis 126 ans à Jackson, face au siège du gouvernement local. C'est la population qui, en novembre, votera pour de nouvelles couleurs. Ce retrait des symboles confédérés n'est pas du goût du président Trump, qui a estimé que leur disparition revenait à mettre en pièces l'histoire et la culture américaine. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
À l'étranger, toujours les premières arrestations à Hong Kong. Moins de 24 heures après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, 10 personnes interpellées pour violation de cette loi chinoise, alors que des milliers de manifestants ont défié le pouvoir pour le 23e anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine. Le silence de Samia Ghali à Marseille qui laisse planer le suspense. La tête de liste écologiste du printemps marseillais, Michel Rubirola, a officiellement appelé l'ex-socialiste et ses colistiers à la rejoindre pour le conseil municipal qui élira samedi le maire de la deuxième ville de France. Arrivé en tête dimanche, le printemps marseillais n'a pas de majorité absolue. Les Républicains arrivés second non plus.
France Inter, il est 8h10. La suite du journal. Florence Paracuelos.
Et c'est un retour sur une des bascules spectaculaires des municipales. La ville de Valenton dans le Val-de-Marne, dirigée par les communistes depuis 1920 et qui passe ainsi siècle plus tard à droite. Victoire du LR Métine-Yavouz, un séisme Thibault Lefebvre pour une ville qui était jusque-là surnommée la Petite Sibérie.
Rue Sacco et Vanzetti, rue Louise Michel, stade Paul Vaillant-Couturier à Valenton. La plupart des noms de lieux publics témoignent de l'héritage communiste. Jacqueline habite depuis plus de 30 ans rue du Colonel Fabien et dimanche dernier, comme toujours, elle a voté pour le candidat PC.
C'est les avantages qu'on regarde. On avait des dansants gratuits, on avait des voyages, et là on a peur que ça soit pas pareil.
Une forme de clientélisme dénoncée dans les quartiers populaires qui jusque-là votaient systématiquement communiste. Mamadou a 32 ans, il a grandi et vit encore au Pologne, une des deux grandes cités de Valenton.
Il y a une partie de nos parents qui n'a pas fait l'école ici. On leur a fait peur avec des grands discours. Si ça change, vous allez tout perdre, les aides, les ceci, les cela. Le meilleur social pour moi, c'est de rendre les gens autonomes. À leur faire croire qu'ils vont avoir besoin d'eux toute leur vie.
Et dans les quartiers pavillonnaires comme le Val-Pompadour, même les plus fervents communistes sont passés à droite. Laurent est retraité, il a toujours voté pour le PC jusqu'à dimanche dernier.
Ça a changé beaucoup parce qu'avant c'était vraiment calme. Maintenant vous avez la quad, ça fait un beau camp. On va voir si ça vraiment ça va changer. Quoi.
Et parmi les principales attentes de Laurent et de nombreux électeurs du nouveau maire Métigny Avouz, la création d'une police municipale et la mise en place de caméras de vidéosurveillance.
Thibault Lefebvre est toujours au chapitre politique. L'offre de service de Ségolène Royal pour 2022. Si je peux être utile à la gauche rassemblée, je mènerai cette bataille, dit l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 qui met en avant son expérience et sa fibre écolo. Et comment conjuguer l'écologie, le sport et la technologie, c'est le défi que s'est donné, que s'est lancé le skipper Fabrice Amédéo. Il s'apprête à prendre le départ du Vendée Globe, pardon, du Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, samedi, à bord de son Imoca, avant le Vendée Globe à l'automne, avec à bord de ce bateau un système de capteurs de microplastiques. Reportage à bord du voilier au large de la Trinité avec Célia Kirel.
Je range mes bouts. Oh, la grand voile.
Un vent de force 5 souffle sur le bateau. C'est l'heure des derniers réglages pour Fabrice Amédéo. Il inaugure un nouveau système de capteurs de microplastiques. L'eau est pompée à plus d'un mètre de profondeur.
C'est doublement une première. Premier Vendée Globe sur ce bateau de 2016 qui a des foils. Donc c'est un bateau très rapide. Et premier tour du monde avec à bord un capteur de microplastiques qui va permettre de vraiment faire une sorte de radiographie de l'état de nos océans. Parce qu'en fait, en 3 mois, on va parcourir tous les océans, Atlantique, Indien et Pacifique. Et donc, sur une durée assez courte, voir l'état de nos océans et le niveau de gravité en ce qui concerne les microplastiques.
Or, ces mers traversées par le Vendée Globe sont très peu étudiées. Christophe Maes, océanographe à Brest, attend beaucoup de ces prélèvements d'eau quotidiens.
On a aujourd'hui très très peu de données de ces microplastiques au sein des océans. Et ces voiliers, évidemment, vont dans des régions qui sont très peu explorées, puisque en fait, c'est les seuls à aller souvent dans ces régions-là. L'idée n'est pas de pouvoir traiter les océans en plein cœur des océans, parce que ça demanderait trop d'efforts, trop d'argent. Mais par contre, si on peut aider effectivement les gens à mettre en place des politiques de retraitement ou éventuellement d'éviter que les plastiques arrivent en mer. Si on ne fait rien, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Donc on ne peut pas laisser faire ça.
Pour sa course au large, Fabrice Amédéo le sait, il part avec un léger handicap. Il devra changer les filtres chaque jour et porter 50 kilos de matériel. Mais peu importe, ce marin veut dessiner cette nouvelle route du plastique pour mieux protéger l'océan.
Reportage de Célia Kiret et la bonne nouvelle du matin concerne les couches pour bébés. Selon une enquête de la répression des fraudes révélée par Le Parisien, elles sont bien plus propres qu'avant, plus de substances toxiques au-delà des seuils recommandés. L'an dernier, les autorités sanitaires avaient découvert des pesticides et autres perturbateurs endocriniens et les autorités avaient sommé les fabricants de revoir leur production, ce qu'ils ont fait apparemment. Enfin, c'est le fondateur du néopolar dans les années 70, ce genre plus noir que noir, social et politique. La série noire republie le premier roman de Jean-Patrick Manchette, l'affaire Ngoustreau, à découvrir ou à relire, Ilana Mor-Youssef.
On le sait, les anniversaires sont souvent des prétextes, mais un prétexte qui permet de découvrir ou redécouvrir Manchette ne peut pas être complètement mauvais. Derrière l'édition de la correspondance et la republication de l'affaire Ngoustreau, on trouve un jeune chercheur de 35 ans, Nicolas Le Flaec, à l'enthousiasme communicatif. Il a découvert Manchette un peu par hasard.
Je suis pas de la génération, en fait, des lecteurs qui ont connu le néopolar. Moi, j'avais 10 ans, en fait, quand il est mort. Et vraiment, j'ai été ébloui. Je me souviens parfaitement de là où j'étais. Et j'ai senti que c'était un grand écrivain, un très grand auteur.
Le souci fanatique de la langue et la férocité politique, deux aspects de l'œuvre de Manchette qui font de lui un écrivain très actuel. La série noire lui rend hommage en republiant ce premier roman de 1971.
Pourquoi l'affaire Ngoustreau? C'est le premier roman qu'il va signer seul de son véritable nom. C'est le roman qui marque son entrée à la série noire, c'est un livre d'une audace folle. Quand on le lit, on est frappé encore par sa modernité, par l'inventivité de Manchette, par la capacité qu'il a, en fait, à faire feu de tout bois. Ça en fait un roman qui, à mon sens, n'a pas pris une ride.
Inspiré de l'affaire Ben Barka, l'affaire Ngoustro est la confession d'un minable d'extrême droite, un fichu de comprendre ce qui lui arrive, un roman radical et décapant.
Voilà, et pour les passionnés comme vous, Nicolas, il y a possibilité de découvrir la correspondance de Jean-Patrick Manchette. Exactement, ça s'appelle Les lettres du mauvais temps, voilà, et c'est publié à la Table Ronde.
Merci Florence Paracuello.